Bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks. La dernière fois, nous avions débuté avec Star Trek. Et bien, une fois n'est pas coutume, on recommence avec Star Trek pour un nouvel épisode consacré au compositeur Michael Giacchino et toujours en compagnie de Rafik Djoumi. Bonjour Rafik.
Bonjour David.
Et du professeur Desbrosses, bien sûr.
Bonjour David.
Bonjour professeur. Que dire à part que Giacchino, il en a fait des musiques depuis qu'il a commencé à composer. On n'en voit pas le bout.
C'est hallucinant, en fait. Chaque épisode couvre une période de 2 ans.
C'est clair.
Il est ultra, ultra productif. D'ailleurs, il dira que il arrive à ça parce que globalement, il travaille toujours avec les mêmes que tout le monde se connaît et qu'ils arrivent à s'entendre sur des plannings qui arrangent tout le monde et qui lui permettent, lui, de ne pas mourir en faisant ce qu'il fait.
On est toujours content d'écouter de la bonne musique parce qu'on consacrerait pas autant d'épisodes à ce compositeur si c'était pas des musiques de films de qualité. Et c'est vraiment le cas.
Oui, oui. Et la raison pour laquelle on fait effectivement des épisodes à rallonge, c'est qu'on a vraiment affaire à un compositeur qui a porté très haut la torche de la musique de film de qualité. Il faut l'avouer, hein, sur les dernières décennies, on a constaté quand même une déperdition de la qualité purement musicale des scores. Alors, est-ce que c'est dû au manque d'artistes ou est-ce que c'est dû à un changement de politique des studios, de la façon de faire des films? Tout ça est un débat ouvert.
Peut-être un peu des deux.
Mais une chose est certaine, c'est que celui qui nous raccorde le plus à la musique de film qu'on a pu connaître dans les années 70, 80, 90, c'est clairement Giacchino. Il est là au rendez-vous régulièrement pour nous rappeler que oui, ça c'est possible.
Oui, et surtout, à la fois, il lâche pas du tout cette approche-là, jamais. Et à côté de ça, il travaille sur des projets, on lui file suffisamment de budget pour qu'il arrive à le faire.
C'est ça.
Je connais bien d'autres compositeurs qui aimeraient faire la même chose, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, tout simplement parce qu'ils sont des prods où il n'y a pas le budget pour avoir un orchestre de 107 musiciens comme il a dans certains cas.
Et donc, on savait qu'on allait passer du temps sur ce compositeur-là, et de toute façon, il nous avait été d'une certaine manière commandité par nos êtres de lumière.
Et oui, c'est à eux que je pense.
Ben oui. On pense à eux tout le temps, mais évidemment que lorsqu'on s'est dit quel compositeur contemporain devrions-nous aborder, les êtres de lumière nous avaient régulièrement donné le nom de Giacchino, et évidemment qu'on allait dans cette direction, pas seulement parce qu'on adore Giacchino, mais aussi parce que nos êtres de lumière le réclament.
Oui, parce que quand on sait que les êtres de lumière nous écoutent, nous, ça nous met en hyperespace, alors que le reste du temps, on est en déambulateur.
C'est clair.
Oui, ce sont les producteurs de cette émission, nos êtres de lumière, donc ils ont aussi un droit de regard sur l'éditorial et les choix des compositeurs qu'on met en avant dans Total Tracks. Et d'ailleurs, pour devenir être de lumière vous-même et pouvoir quelque part influencer nos choix futurs, eh bien, il n'y a qu'un moyen, Rafik.
Exactement. Le moyen le plus simple, c'est de se rendre sur la plateforme Tipeee.com ou Patreon.com. Les êtres de lumière, ce sont nos contributeurs, c'est ceux qui permettent à ce podcast d'exister. Ce sont nos mécènes, nos bienfaiteurs. Régulièrement, chaque mois, ils mettent un peu de sous dans l'escarcelle, dans la machine Total Tracks. On le répétera jamais assez, c'est vraiment, vraiment grâce à ces dons généreux que ce podcast peut se faire, puisque, en gros, à chaque fois, là, tel que vous nous voyez aujourd'hui, on est dans des locaux qui ne nous appartiennent pas, donc on a dû, d'une certaine façon, louer avec du matériel qu'on a dû acheter. Donc, si vous voulez faire partie de ce club hyper select, alors on vous prévient, quand on dit select, c'est très, très select. Ils vivent carrément dans une dimension qui n'est pas tout à fait la nôtre. Alors, j'ai entendu dire qu'ils avaient des pins qui leur permettaient, justement, de quitter notre plan de réalité pour accéder aux leurs.
Oui, ce sont les pins Total Tracks. T'en as pas, toi?
Non, j'ai pas le pin Total Tracks, ouais. On verra ça plus tard en cours d'émission.
Bon, c'est extraordinaire tout ça. Moi, je suis épaté par nos êtres de lumière. Bref, repartons dans l'univers lointain des galaxies lointaines du futur avec Giacchino et Star Trek. L'affaire ne s'arrête pas au premier film, ça continue au second et ça continue pour le meilleur, parce que là je dois avouer que moi le deuxième film, déjà c'est mon préféré des nouveaux, mais en plus j'adore la musique du 2, je la trouve vraiment excellente.
Alors c'est pas mon préféré parce que en gros c'est un film qui s'appuie presque entièrement sur à la fois un épisode de la série classique qui présentait le personnage de Khan, oui, parce qu'il y a Khan dans le film, on vous spoil, hein, parce que c'est pas révélé, c'était même caché à la presse à l'époque.
Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais en réalité, je n'y vois pas Khan. J'y vois un autre personnage et une autre histoire, mais j'arrive pas à faire le parallèle avec l'épisode et le film de l'époque, parce que c'est tellement différent. Et en plus, il y a Benedict Cumberbatch, et moi, je suis une Cumberbitch.
C'est Khan, mais c'est un autre personnage avant. C'est un mec des services spéciaux, etc. Et comme en plus de ça, ils sont allés jusqu'à reproduire une scène de Star Trek 2 qui reprenait aussi une nouvelle rencontre avec Khan, où Spock mourait avant une résurrection dans le troisième film. Et là, c'est l'inverse, c'est Kirk qui va mourir et revenir.
Mais il meurt pas, en fait.
Mais il meurt pas vraiment, d'ailleurs, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils ont pas fait un truc plus original que ça.
Et aussi dans des films qui se construisent un petit peu au gré des bouleversements algorithmiques des réseaux sociaux. Parce que là, pour le coup, dès le lancement en production, ils savaient qu'ils étaient en train de faire un remake, basiquement, du deuxième film Star Trek. Mais comme déjà les fans étaient sur l'affaire et soupçonnaient l'entourloupe, ils ont passé une énergie démentielle pendant des mois et des mois à expliquer que non, ça n'était pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir, il n'y aura pas Khan, il y a machin. Tu vas voir le film et basiquement, c'est la colère de Khan. Donc là, tu fais, oh, faut arrêter, quoi.
C'est très DJ Abrams de faire ça. Il adore. Ce genre de marketing viral, de sites secrets, de trucs comme ça. Donc, c'est pas très étonnant, quoi. Après, le film est pas détestable non plus. Et puis, la musique est vraiment, effectivement, Giacchino avait déjà placé la barre assez haut avec le premier film. Dans le deuxième, il va encore un petit peu plus loin. Il reprend les thèmes qu'il avait composés pour le premier. Il les développe différemment. Il en ajoute d'autres. En plus, le ton global du film est plus sombre. Et ça se ressent dans la musique. Franchement, c'est du super, super bon boulot. Il y a des Klingons qu'il y avait pas dans le premier. Du coup, quand on a des Klingons, on a de la musique avec un chœur qui chante en Klingon, ça c'est classe. Musicalement, c'est plus que satisfaisant, et on parlera un peu plus tard aussi du troisième film, qui encore une fois, le film commence à être un peu moins satisfaisant, mais musicalement c'est super quoi. Le mec fait plus que le travail pour lequel il est embauché.
Je regarde pas le film dans son entier, parce que les Star Trek ils sont pas réussis dans leur globalité, mais par contre il y a des petits moments très réussis et probablement grâce à la musique de Giacchino, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai que dans le morceau qu'on a choisi, là, vous allez entendre entre autres choses le thème de Spock, qui est un truc qui est joué à l'Hérou. L'Hérou, c'est une sorte d'instrument à cordes chinois, très plaintif. C'est une super bonne idée, ça marche très très bien, ça donne le côté un peu étrange d'un Vulcain qui vient d'un monde un peu bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a aussi une approche qui est totalement pas Star Trek. Dans un morceau qu'on avait mis dans l'épisode qu'on avait consacré à Star Trek, qui s'appelait London Calling, clin d'œil au Clash, je pense, qui est un morceau qui sonne pas du tout Star Trek, qui sonne plus thriller, parce que c'est une scène qui n'est pas une scène véritablement Star Trek dans le film. Enfin, il y a plein de choses comme ça, on va entendre aussi une section de ce morceau là dans le morceau qu'on a choisi, puisqu'on vous a mis de côté pour cet épisode le générique de fin, qui, comme celui du premier qu'on n'a pas écouté dans l'épisode précédent, démarre avec la fanfare d'Alexander Courage.
Et ben c'est parti.
Voilà, donc ça s'appelle, alors pour le coup il s'est pas amusé sur les noms, parce qu'il n'arrive plus à trouver des blagues sur End Credits, mais c'est tout bêtement End Credits.
Renvoie nos auditeurs aux épisodes qu'on avait consacrés à toute la saga Star Trek, séries télé et films compris.
Ça date d'il y a 3 ans, ouais. Il y a à peu près 3 épisodes qui doivent bien faire chacun au moins 3 heures.
Oui, facile, oui.
Où on a parlé un peu de tout l'univers Star Trek depuis la première série jusqu'à
nos jours.
Mais on pourra certainement y revenir à l'occasion, explorer plus en détail les scores, par exemple, de la série classique. Il y a des choses assez superbes. Il y a plein de trucs à faire autour de Star Trek, donc on n'en a pas fini avec ça. Et puis on vous a quand même mis un morceau parce que c'est quand même important dans la carrière de Giacchino.
Bah d'autant plus important qu'il se positionne du coup maintenant comme un réalisateur de blockbuster live. Il arrive à une époque où le blockbuster n'est pratiquement plus composé que de franchises en fait, puisque donc c'est la politique que les studios hollywoodiens ont fini par choisir à partir de la fin des années 90 et qui n'a fait que s'accélérer dans le temps, de ne plus jamais lancer en fait de franchises nouvelles, même s'il y en a encore qui arrivent à se faire très difficilement et on y reviendra assez vite. Mais l'idée c'est de ne plus faire des films qui reposent sur au moins un nom qui dit quelque chose au public. Il faut juste que le nom évoque. Si on a, Blanche-Neige et le Chasseur, par exemple, on pourrait se demander pourquoi ce film existe. Il existe parce que Blanche-Neige, c'est tout. Si t'arrives aujourd'hui dans une major et que tu leur balances un projet, s'il n'y a pas un élément identifiable internationalement, c'est même pas la peine. Et donc, Giacchino va finir par se retrouver maintenant, voilà, entre Star Trek, Mission Impossible, il est déjà rentré dans un système de franchise, et là, il va carrément remplacer un compositeur sur une autre franchise, qui est donc le reboot de la saga de la planète des singes.
Pour le deuxième film de ce reboot, le premier étant réalisé par Rupert Wyatt avec une musique de Patrick Doyle,
ouais.
Et le second étant réalisé par son copain Matt Reeves, c'est pour ça qu'il revient aussi, qui fera également le troisième avec Giacchino, on en parlera un peu plus tard.
Celui-ci s'appelle La planète des singes, l'affrontement.
En anglais, c'est Dawn of the Planet of the Apes.
C'est ça. Et effectivement, on va pas trop s'attarder sur le film, puisque Olivier insiste lourdement pour qu'on consacre plusieurs épisodes de Total Tracks à toute la saga Planète des singes, ce que immanquablement comment on va faire, bien sûr.
Voilà, et qu'on va faire pour la sortie du prochain film qui démarre, je sais pas, peut-être une nouvelle trilogie, j'en sais rien, qui sort en mai. Donc en mai, attendez-vous à avoir du singe poilu dans Total Tracks. Voilà, donc Giacchino, il a fait encore une fois le travail très très bien, avec beaucoup de soin. C'est un peu moins démonstratif que ses scores précédents, que ce qu'il a fait par exemple pour Star Trek. Il a beaucoup étudié, entre guillemets, la musique de La Planète des Singes de Goldsmith et celle de Danny Elfman pour le film de Tim Burton. Il s'est pas inspiré directement, mais il est allé chercher des références, des notions, des choses auxquelles il pouvait faire quand même des clins d'œil dans le film, et il y en a un certain nombre. Donc c'est toujours très très éduqué, très élaboré ce qu'il fait. Je trouve ça assez intéressant. Il y a aussi pas mal de citations de Ligeti. Quand on met ça en parallèle avec ce qu'avait fait Goldsmith, pourquoi pas. Et puis il a eu évidemment tous les moyens nécessaires, puisque c'est un blockbuster, donc 89 musiciens, 70 choristes cette fois-ci. Il y a beaucoup de chœurs dans le score.
Mais si le truc est moins démonstratif que sur Star Trek, c'est aussi parce que la série des reboots de La Planète des Singes sont des films pas très démonstratifs.
C'est ça, ça se veut moins spectaculaire en fait, et plus introspectif, plus vu du point de vue des singes, etc.
Plus vu du point de vue de César, hein, qui est vraiment le personnage principal et vraiment autour de qui gravite l'essentiel de l'émotion du film. C'était le cas du premier, hein, qui tournait intégralement autour de sa condition de créature de Frankenstein, on va dire. Voilà, un singe intelligent dans un monde humain, il les considère comme des animaux. Là, il devient vraiment un chef de guerre dans celui-ci, où on est plus dans une dynamique de western du côté des Indiens, on va dire.
C'est ça. Et en plus, on en reparlera quand on fera l'épisode, mais techniquement, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire pour
avec la performance capture
des singes. Ouais.
Tout à fait. On est plusieurs à avoir défendu le procédé de la performance capture depuis que Zemeckis l'emploie, et c'est vrai que cette saga des Planètes des Singes, c'est pour nous une carte à jouer dans les discussions, parce que t'as envie de dire aux gens, mais comment tu fais un film aussi incarné si tu ne passes pas par cette technologie?
Voilà, donc on va écouter rapidement un morceau de ce Planète des Singes qui s'appelle Primate for Life. C'est un gros morceau émotionnel qui est un peu construit à la manière de ce qu'il avait fait pour le final de Super 8 qu'on a écouté dans l'épisode de la semaine dernière. Donc c'est pas une approche nouvelle pour Giacchino, par contre c'est très efficace, c'est très bien écrit, et surtout c'est soutenu en plus par des chœurs, et ça donne un effet particulièrement remarquable. Donc on écoute ça et on passe au film suivant.
Allez, Primate for Life de Dawn of the Planet of the Apes.
Voilà, donc vous aurez plus dans 2 mois.
David est en train de se moucher parce qu'il pleure tout le temps quand il écoute de la musique.
Ça me touche profondément. Non mais c'est un très beau score et c'est des films... Moi j'aime bien les reboots de La Planète des Singes. Je les trouve assez réussis.
En tout cas plus que l'essai de Tim Burton.
Ah non mais c'est sans comparaison.
Et donc Giacchino continue son petit bonhomme de chemin. Il continue ses collaborations toujours avec les mêmes. Et là il retrouve des gens avec qui il a travaillé déjà une fois avant pour un petit film dont on a parlé il y a 15 jours qui s'appelle Speed Racer. Et là il retrouve le duo des Wachowski pour un film qui s'appelle Jupiter Ascending. Entre les deux il y a eu Claude Atlas, mais qui était mis en musique par leur ami Tom Tykwer. Et là il lui propose de revenir, il dit oui, et ça va être une expérience particulière pour lui, une des plus satisfaisantes de sa carrière, pour un film qui n'a pas forcément satisfait par contre tout le monde.
Et oui, il y a beaucoup de choses évidemment à dire sur ce film. On peut déjà d'emblée préciser que, enfin là pour le coup on parlait de goût personnel, moi c'est le score de Giacchino qui m'impressionne le plus de tous ceux qu'il a composés. Je trouve que c'est vraiment une pièce maîtresse quoi, de la musique de film du 21e siècle, Jupiter Ascending. Quelque part il semblait en être conscient vu comment il a lui-même constitué son album en fait, qui est fait de mouvements comme des mouvements d'un grand opéra, et c'est aussi comme ça que le film a été pensé au départ. Les Wachowski ont fait effectivement l'expérience de la production indépendante avec Claude Atlas, qui rappelons-le était une des productions indépendantes les plus chères depuis le Apocalypse Now de Coppola, hein, qui s'est fait complètement hors studio on va dire, avec un relatif succès d'estime. Ils ne pouvaient pas prétendre faire un carton avec ce film là, mais par contre le public qui a pu voir le film l'a véritablement apprécié.
Il y a beaucoup de choses à apprécier dans Claude Atlas, clairement.
On est bien d'accord, mais il reste en négociation avec les majors, notamment avec Warner, qui allait les soutient à travers la figure du président Jeff Rubinoff. Et Rubinoff, il est des rares à Hollywood à l'époque à concevoir l'idée de lancer de nouvelles franchises. Parce qu'il faut savoir que depuis la fin des années 90, Hollywood n'a connu que 2 créations de franchises originales qui ont été Matrix, donc des Wachowski, et le Avatar de James Cameron.
T'as raison, il y a quasiment plus de place pour des créations de franchises parce que le coût d'un premier film de franchise est quelque chose de très élevé et le risque de partir sur quelque chose de nouveau, c'est que ça marche pas et qu'il n'y ait pas de franchise qui existe. Et c'est exactement ce qui va se passer là d'ailleurs.
C'est un film que j'attendais énormément et Warner m'a bien déçu puisque le film a été repoussé de 8 mois avant sa sortie finale.
On parlait de John Carter dans l'émission précédente et des déboires que le film a connus après son tournage quoi, et la façon avec laquelle Disney l'a clairement saboté. Dans le cas de Jupiter Ascending, on peut aussi parler de sabotage. Il y a encore une fois une guerre de pouvoir qui s'est jouée derrière, puisque le fait est que celui qui a lancé le projet, Jeff Rubinoff, a dégagé entre-temps, que les Wachow n'avaient plus du tout de soutien au sein de la major, mais qu'elle s'est engagée sur ce qui devait, rappelons-le, être une franchise. Donc en fait, il y avait une espèce de bible qui avait été écrite sur un univers extrêmement vaste et très complexe, dont le premier film devait être une introduction. On devait partir d'un point très intime, en l'occurrence démarrer sur cette héroïne qui est littéralement une femme de ménage, hein, qui nettoie les chiottes dans les appartements des bourgeois, et qui progressivement finit par réaliser qu'elle est littéralement une princesse galactique. Et donc on devait nous mener peu à peu à ouvrir le champ de l'imaginaire, à développer une sorte de John Carter au féminin, quelque part.
Oui, je crois qu'ils avaient en tête déjà 3 films qui étaient des projets assez massifs, en plus assez longs, des films de 3 heures, et ils se sont retrouvés à finalement condenser tout ça en un film de 2h15.
C'est ça, quand il y a eu des problèmes avec Rubinoff, et bon, tout ça est une histoire compliquée. Là aussi, je vous conseillerais d'aller lire les articles que mon collègue Arnaud Bordas a consacrés aux problèmes du film. Toujours est-il que, en gros, il s'agissait maintenant de boucler en un seul film, ce qui devait être une saga, et ça a été fait un peu au forceps, voilà, on peut le dire. Et le film a été achevé dans des conditions pas du tout agréables, puisque basiquement, je pense que les Wachow savaient d'avance que leur film allait pas être soutenu pour sa sortie.
Après, il y a des problèmes qui sont inhérents aussi à ce qu'ils ont fait. Il y a des choses dans le film qui sont un peu contestables en termes de direction d'acteur ou même de casting.
Non, c'est un film bordélique, on est encore une fois d'accord, mais...
Mais à côté de ça, il y a des images qui sont des choses qu'on n'avait jamais vues, qui proviennent d'un imaginaire de SF qu'on ne peut, à la base, générer qu'en lisant des livres, littéralement. Et là, c'est mis à l'écran et c'est absolument sublime visuellement. En plus, ils ne refont jamais 2 fois le même univers, donc c'est pas du tout la même chose que dans Claude Atlas, c'est pas du tout Speed Racer, c'est pas du tout Matrix, c'est encore quelque chose en termes de design qui est complètement différent, et il y a énormément de travail et ça se voit quoi.
Et puis il y a un excellent casting, hein. Ça c'est intéressant parce qu'ils ont choisi toute une carrière d'acteurs que je trouve...
Pas tous justement.
Moi je les aime bien.
Pour moi Eddie Redmayne c'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué. Le personnage principal qui est vraiment le personnage qui compte, hein, qui est interprété par Mila Kunis, effectivement elle est bien utilisée et en plus de ça elle est vraiment utilisée sous une forme quasi... presque autobiographique, puisque basiquement elle fait partie d'une famille d'immigrants russes assez blue collar, enfin un peu ouvrier quoi, on va dire. Ce qui nous rappelle aussi à l'origine des Wachowski, hein, ils viennent de ce type de famille là. Elles se sont un peu aliénées dans cette famille là, elle a des rêves de grandeur, elle vend ses ovocytes, etc. On rappelle que Lana Wachowski, enfin voilà, il y a eu une transition qui s'est faite à l'époque des Matrix, une nouvelle identité qui s'est révélée au monde, on va dire. Et Jupiter Ascending est aussi une tentative de remettre comment dire le couvert. Il y avait quelque part l'idée de refaire un Matrix sous leur nouvelle identité. Et donc d'essayer de construire un récit héroïque, cette fois-ci au féminin, puisque c'est leur partie féminine qui s'exprime plus dans Jupiter Ascending, si on veut. Le rôle de Channing Tatum est important, mais il joue le rôle de Trinity, en fait, dans le film. Il arrive à la rescousse du pauvre Neo qui est Mila Kunis, quoi. Il y avait clairement un travail de révision de ce qui avait fait le succès de Matrix avec Jupiter Ascending.
C'est un personnage intéressant parce que ça vient encore une fois de la littérature, puisque c'est un clone qui a été combiné de gènes humains, de gènes de chiens, donc il a des capacités un peu surnaturelles pour un humain normal. Et il y a plein de choses comme ça qui sont des concepts de hard SF qu'on voit pas si souvent que ça exploiter proprement au cinéma.
Ah bah pour ce qui est de ne pas voir souvent ça au cinéma, effectivement, moi qui généralement fait connaître mon dégoût, hein, on peut le dire, pour toutes ces super productions un peu de machine à laver, quoi, de tentatives de faire du cinéma populaire qui ne se repose que sur des formules éprouvées et déjà vues. Le simple fait d'aller voir un film de SF dans lequel on a une baston à coups de laser avec des aliens dans une clinique d'ovocytes... tu te dis qu'au moment où la scène se déroule sous tes yeux, au moment où tu vois Mila Kunis qui était en train de se faire prélever les ovaires attaqué par des aliens, tu te dis je vois pas souvent ça dans un blockbuster hollywoodien, je suis content d'être là.
Et puis en plus c'est magnifiquement réalisé, comme toujours avec les Wachos, ils ont une maîtrise des effets spéciaux qui est hallucinante, vraiment. Et ils ont même d'ailleurs inventé des techniques, entre autres pour tout ce qui est de Channing Tatum qui fait du skate aérien,
du roller aérien,
et ça a été réutilisé sur plein de films après parce que la technologie développée n'existait pas en fait. Donc on vous parlait de Mila Kunis qui nettoyer les chiottes, et c'est une des premières séquences du film. Elle est effectivement femme de ménage avec sa mère, et elle fait du ménage dans les apparts, visiblement chez les riches, et elle déteste cette partie-là de sa vie, et elle le dit.
I hate my life.
Et elle est accompagnée en musique par un morceau qu'on va mettre maintenant, qui est en fait la première itération qu'on a dans le film du thème de Jupiter, puisqu'elle s'appelle Jupiter. Ça s'appelle I hate my life.
Moi, je dois dire que pour une fille qui nettoie les toilettes, ça sent quand même l'action. Hein.
C'est marrant parce que c'est un morceau qui est réutilisé. Là, il est utilisé partiellement sur cette scène-là du début du film, pas en entier. Et il est réutilisé ou en entier, ou en tout cas la deuxième partie du morceau, dans une scène qui arrive bien plus tard dans le film, où entre-temps, elle s'est retrouvée dans l'espace, elle a appris qu'elle faisait partie de la royauté, et elle va aller faire confirmer son titre de reine dans une administration extrêmement complexe sur une base spatiale quelconque. C'est tout le parcours parcours du combattant qui est littéralement les 12 travaux d'Astérix, hein, d'arriver à faire valider, de voir tous les bons guichets, les bons machins. Et le morceau accompagne cette scène-là et elle se termine par un caméo de Terry Gilliam dans un décor qui est un pur décor à la Brésil.
Exactement. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, et je pense qu'ils sont nombreux vu que le film a été quand même un sacré échec, on va peut-être essayer de résumer l'intrigue. Donc Jupiter est née donc sous un ciel étoilé, ça s'est dit dans la scène d'ouverture, elle est au plus bas de l'échelle, etc. Et un jour donc elle rentre en contact avec cet être, ce militaire génétiquement modifié, donc dont tu as parlé, Channing Tatum, qui est là pour la protéger parce que donc elle serait en danger. Et effectivement, le danger arrive très très vite puisqu'il y a donc une magnifique poursuite sur les toits de Chicago avec deux vaisseaux spatiaux qui tentent de la zigouiller parce qu'elle porte en elle donc un code génétique très très important pour certaines des familles qui dirigent la galaxie, qui sont en fait en gros des espèces de bergers, puisque la planète Terre n'est rien d'autre qu'une ferme. En fait, toute l'énergie qui leur permet d'accéder à l'immortalité est récupérée sur nos pauvres têtes à nous, êtres humains.
C'est-à-dire que c'est ça, ils ont prévu très prochainement, au moment où le film se passe,
une grande récolte,
de faire une récolte des gens, et c'est transformé en une sorte de liquide dans lequel les riches se baignent pour obtenir une quasi immortalité, en fait.
Voilà, une fontaine de jouvence.
C'est un thème de SF hyper classique, d'ailleurs très souvent employé dans les thèmes de science-fiction des années 60, et souvent les invasions extraterrestres qui n'avaient pas toujours forme humaine étaient là pour venir récolter les humains qui sont toujours de précieuses ressources, soit pour devenir jeunes, soit pour leur énergie mentale, soit pour plein de choses, bref. Mais c'est un chouette thème de SF, c'est ça qui est bien chez les Washoe, ils savent régurgiter leur grande connaissance de la science-fiction traditionnelle, classique, ou de l'âge d'or, enfin des années 60, et en faire quelque chose de nouveau.
Oui, et d'ailleurs c'est marrant parce que la base du film, la base du script, c'est pas du tout des écrits de SF, c'est basiquement un conte de fées. C'est-à-dire que c'est inspiré en partie d'un des livres préférés des Wachowski, qui est l'Odyssée de Homer, et surtout du Magicien d'Oz. Et il y a beaucoup de Dorothy dans le personnage de Jupiter, en fait.
Tout à fait. Et il y a également une prédominance, à nouveau, de la thématique gnostique qui était au cœur des Matrix, donc où Neo s'apercevait qu'en gros les humains étaient un champ énergétique, puisqu'on avait ces images de corps enfermés sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc on retrouve ça dans Jupiter Ascending. Alors bon, on va faire comme si c'était de la science-fiction, du fantastique, tout ça. En réalité, c'est vrai, hein. Tout ce que dit le film, c'est bel et bien le cas. Si vous avez la sensation de vivre dans un réel qui n'est pas tout à fait normal, c'est parce que nous sommes bel et bien dans une ferme. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, les références sont presque plus explicites qu'elles ne l'étaient dans Matrix, puisque donc la famille Abraxas, elle fait bel et bien référence à une divinité gnostique, en fait, qui est une espèce de dieu. Alors bon, les catholiques appelleraient plutôt ça un démon, avec une tête de poulet et deux jambes en forme de serpent, qui est donc représenté sous la forme d'un anguipède alectorocéphale. J'ai dû googler pour être sûr du terme. Le gnosticisme qui était suggéré dans Matrix, là, est vraiment établi dans Jupiter Ascending, et en même temps, ça les déculpabilise, c'est-à-dire que Matrix devait quand même essayer de garder une forme de rigueur dans la description du fantastique, là où dans Jupiter Ascending, on tend beaucoup plus vers l'aspect fantasy. C'est pour ça que je parlais de John Carter tout à l'heure, puisqu'on a vraiment des reines galactiques, des scènes de mariage complètement délirantes, etc., des images de vaisseaux qui sortent d'une mer de cristal.
Il y a un plan avec un vaisseau qui passe à travers un anneau de planète.
C'est ça.
C'est tellement beau.
C'est super beau.
C'est jamais vu ça avant. Donc franchement, moi je suis toujours bluffé visuellement par le film. Il y a des problèmes de structure qui sont liés en partie à la concentration qu'ils ont faite. Il y a un peu des allers-retours qui se ressemblent un petit peu par moment parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer leur histoire proprement, en fait.
Et puis une difficulté à mêler aussi les différents tons qui avaient été choisis pour cette saga, puisque donc on passe quand même du fantastique, je dirais, le plus normal ou d'action. Enfin voilà, la scène, encore une fois, à Chicago, elle est très spectaculaire, donc tu fonctionnes sur un certain mode, et la scène suivante, ça va être une comédie. Tu parlais tout à l'heure des 12 travaux d'Astérix, c'est littéralement ça.
Les scènes avec la famille russe.
Voilà. Et le découpage séquentiel, c'est-à-dire le passage d'une scène à l'autre, est du coup problématique parce qu'il demande énormément d'efforts aux spectateurs pour se resynchroniser avec une certaine émotion. Et je pense que c'est ce qui joue en défaveur du film, c'est que il joue sur trop de tableaux à la fois. En fait, en tant que cinéphile, on a du mal à reprocher au film d'être trop généreux. Et là, ça n'arrête pas, en fait.
C'est clair qu'il enchaîne les visions dantesques. Il y a des gargouilles vivantes qui sont pas drôles du tout. C'est pas les tortues ninja, hein. Qui sont super dangereuses et super menaçantes.
Et super bien designé aussi, je trouve.
Super bien designé, bien sûr. Et puis tous les décors des vaisseaux sont d'une certaine façon inspirés de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a des choses un peu gothiques, il y a des choses un peu 19e siècle. Ils ont tourné certaines séquences qui se passent dans les vaisseaux, dans des bâtiments historiques, entre autres dans une cathédrale, je sais plus où, en Angleterre, enfin des choses comme ça. Et ça fait un tout extrêmement cohérent, alors que c'est un énorme bordel, en fait.
Et là-dessus, on a Giacchino qui alors là est complètement libéré de toute chaîne.
On va écouter un deuxième morceau et après je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur le film parce que c'est absolument unique. Et il fallait bien que ce soit les Washoe qui soient derrière ça, quoi.
Tu parlais de magnifique vaisseau qui sort des anneaux de Jupiter ou de je sais plus d'où. Et effectivement, cette image elle est frappante, mais elle est frappante aussi parce qu'elle est accompagnée par une musique tout aussi frappante.
Qui ressemble à celle-là mais qui n'est pas celle-là parce que ce morceau-là n'est pas ou très peu utilisé dans le film.
D'accord.
Dans ce ton-là, il y a des choses effectivement qui ressemblent beaucoup à ça dans le film.
C'est le vaisseau de Titus Abrasax.
Et donc c'est un morceau qui pour moi sort des meilleurs inédits de John Barry. C'est très barryesque dans le ton.
Ouais, ouais.
Mais c'est super beau, c'est vraiment, personne ne peut faire du John Barry comme ça. Giacchino, là, sur ce score-là, de toute façon, l'album entier, et en plus, le film, il y avait des attentes derrière, contrairement à John Carter, et on a eu la chance d'avoir un double album qui est sorti avec la totalité du score, et donc c'est absolument magnifique, et on écoute ce morceau qui s'appelle donc The
Titus Clipper, un magnifique morceau de John Barry. Thank you.
Ouais, c'est John Barry au début, mais c'est plutôt du John Barry aux hormones hein, sur la fin. Ça s'excite.
Je dirais que c'est le voyage de la capsule spatiale de Moonraker au début, et qu'ensuite on évolue presque vers Out of Africa, avec des percussions un peu africaines, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui, oui.
Oui, un petit peu du trou noir qui se passait lui aussi dans l'espace.
Pourquoi cette musique est spéciale ? Déjà, elle est exceptionnelle, mais en plus, elle est spéciale parce que, pour la première fois de sa carrière, et c'est d'ailleurs assez rare chez les musiciens de cinéma, à part éventuellement chez Morricone, les Wachowski ont demandé à Giacchino de composer le score avant que le film soit tourné. Le film est sorti en 2015, le score a été enregistré en 2013, après avoir été composé, et il n'avait pas d'image du film, il n'avait même pas le scénario. Tout ce qu'il avait, c'était des fiches qu'il lui avait faites avec des personnages, ou des situations, ou des lieux, pour avoir quand même une petite inspiration de base. Et après, ils lui ont dit « Fais ce que tu veux ». Et il a fait ce qu'il voulait. Et il a écrit 80 minutes de musique qu'il a enregistrée à Londres avec un chef en plus prestigieux qui est Ludwig Wicki, qui est un chef suisse qui a d'ailleurs dirigé pas mal de concerts de musique de film. Et donc, ils ont enregistré tout le score comme ça. Et les Wachowski se sont ensuite basés sur le score pour monter les séquences.
En fait, c'est un truc qui leur avait été suggéré par leur amitié avec Tom Tykwer. Tykwer compose la musique de ses propres films, mais il leur avait révélé qu'il pensait déjà à la musique durant le processus d'écriture. Et que, parce qu'il avait certains morceaux qui lui venaient en tête, ça lui donnait un certain style d'écriture de son scénario et de structuration de son film. Et donc, bah, du coup, les Wachowski, qui ne sont pas musiciennes, se sont dit, on pourrait peut-être faire la même chose, laisser la musique nourrir le rythme de notre récit. Et c'est pour ça qu'elles ont demandé, effectivement, à Giacchino de faire la musique au préalable.
Enfin, de toute façon, c'est extrêmement rare, et c'est surtout très rare qu'on ait la totalité du score. Au final, ce sera pas la totalité, parce qu'évidemment, il y a des endroits où ça marche pas, et qu'il va falloir retravailler un peu ce qui a été écrit pour l'adapter à l'image finale, mais ils vont quand même garder 55% de ce qui a été écrit exactement à l'identique de la première version, monté comme ça sur le film, avec le film qui s'adapte à la musique et non l'inverse. Ça aussi, c'est quand même assez rare, quoi.
C'est rare, et puis c'est surtout que ça fait du coup de la partition, une partition, encore une fois, d'opéra ou de ballet. On n'est plus dans le cadre de la musique de film, parce qu'on est sur un compositeur qui compose alors qu'il n'a pas de film sur lequel composer.
Oui, mais du coup, il compose sans contrainte, il peut déployer ses ailes autant qu'il veut et laisser son inspiration courir. Il n'y a pas de point de synchro à respecter, il n'y a rien du tout.
Mais ça fait de sa musique une musique dite entre guillemets classique, puisque composée avant l'existence d'un film dédié.
Oui, mais vu le résultat, ça donne presque envie qu'il nous fasse de la musique pour le concert, parce que cette liberté lui a vraiment donné une créativité complètement folle, quoi.
Ça donne donc, encore une fois, on l'a dit, un score effectivement assez époustouflant, qui va vraiment être remarqué bien au-delà du milieu du cinéma. Un danseur de ballet qui s'appelle Kyle Davis va tellement être inspiré par cette partition qu'il va décider de créer un ballet autour de la musique de Jupiter Ascending.
Oui, absolument. Un ballet qui traite des corps célestes, de tout ce qui est exploration spatiale, en fait.
Ça s'appelle A Dark and Lonely Space, son ballet. Ça donne une idée de l'incroyable qualité de cet album.
Voilà, et donc on a sur le disque la totalité du score, dont une partie qui a été enregistrée sous forme de symphonie en 4 mouvements, qui sont vraiment superbes, donc des pièces assez longues, et on va évidemment vous en faire écouter une. Donc ça, c'est le 3e mouvement, qui est utilisé dans le film, mais pas tel quel. Effectivement, il est découpé à différents endroits du métrage, mais la regrouper en une seule pièce, c'est assez magique quand même.
On se fait ça ?
Allez, c'est parti.
Non mais franchement,
ça pète très fort.
C'est pas trop mal. Et alors en plus de ça, on est enthousiaste, vous avez compris je pense, mais on peut pas vraiment vous représenter la qualité du truc parce que là tout est exceptionnel. L'album est absolument sublime, de la première à la dernière note. C'est probablement le seul score de Giacchino qui va aller au-dessus encore de ce qu'il a fait pour John Carter.
C'est clair.
Le film n'a pas eu le succès escompté.
Ah bah, le film ne pouvait pas avoir le succès escompté encore une fois, donc il a clairement été abandonné par son studio. C'est une grosse production. Ils ont décidé de le sortir dans la période la plus creuse de l'année, je crois que c'était en février, un truc comme ça, avec une campagne d'affichage complètement moisie, aucune promo sérieuse, rien n'a été fait quoi sur ce film-là, et les Vachaux étaient déjà convaincus que Hollywood n'était plus pour elle, donc elle s'était déjà consacrée à d'autres projets à venir. Elles vont se refaire une santé quelques mois plus tard à la télévision. Littéralement, c'était d'ailleurs une année complètement schizo, parce que la même année, j'ai entendu tous les gens dober comme des malades sur Jupiter Ascending, puisqu'évidemment, qui dit qu'un film n'est pas protégé par son studio, ça veut dire que la presse sort de la cœur joie pour le défoncer comme elle peut. Je crois qu'il a été nominé au Razzie Awards The Usual Suspects, j'ai envie de dire. Donc les Wachowski sont au plus bas de l'accueil public et critique avec ce film-là qui sort en début d'année. Et au mois de juin, les Wachowski deviennent les meilleurs artistes en activité parce
sur
que
Netflix, ouais.
Sur Netflix, il y a Sense8 et que tout le monde trouve que c'est la meilleure série du monde. Et t'as envie de dire, non mais à un moment donné, il faut vous décider quoi. C'est ridicule.
Surtout que Sense8 est un développement directement initié avec Cloud Atlas. Après, moi j'aime quand même beaucoup Jupiter Ascending, même si je sais que le film n'est pas parfait, mais on a de la chance de l'avoir parce que c'est en gros le quatrième bid successif des Wachos.
C'est clair.
Donc normalement, quand tu fais des bids, même si t'as un nom énorme, tu dépasses pas les trois.
Mais c'est surtout que c'était la dernière fois qu'on verra un film de ce que je pourrais appeler les Wachos compulsives, c'est-à-dire en fait obsessionnel du détail. Un film comme Jupiter Ascending, ça se voit hein, dans le travail sur le design que c'est un truc de malade mental.
Le design, les costumes sont sublimes.
Et que le moindre bouton de chemise a été validé 50 fois. Rien n'a été laissé au hasard. Il y a un côté hyper maniaque et c'est ce côté hyper maniaque que les Wachos vont décider de laisser complètement à l'abandon. En gros, en quittant Hollywood, elle quitte une façon de travailler. Jupiter Ascending, c'est la fin d'un cycle. On verra plus ce genre de film des Wachos. Si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas aimé, j'ai envie de dire, tant pis pour vous.
Et alors, c'est vraiment un album qui est absolument essentiel. Ceux qui ne l'ont pas, vous l'achetez tout de suite avant qu'il n'y en ait plus, parce que sinon, vous passez à côté d'un vrai chef-d'œuvre. On a l'air souvent enthousiaste là, mais c'est parce qu'on parle de Giacchino et qu'il a quand même fait beaucoup de choses très enthousiasmantes. Mais celui-là est quand même encore une fois au-dessus du lot. Et Stéphanie n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais elle m'a dit aussi que c'était son préféré. Donc voilà, écoutez la jeune fille.
Allez, on va essayer de vous convaincre une quatrième fois. On se met un autre morceau.
Voilà, un morceau qui n'est pas utilisé dans le film, dans la version finale, qui a été composé en avance, comme le reste d'ailleurs, qui est un morceau qui est construit autour du love theme entre Jupiter et Ken Wise, qui est donc le personnage mi-homme, mi-chien.
Plus un loup qu'un chien. Hein.
Oui, mais l'inspiration du personnage de Ken au départ, tel que décrit par les Wachowski, c'est Toto, le chien de Dorothée dans Le Magicien d'Oz.
C'est ça.
Donc c'est quand même pas mal.
C'est un Toto beau gosse.
Ah, c'est un Toto très Channing Tatum. Puis d'ailleurs, il bouge vraiment. C'est un danseur, donc il a une gestuelle qui est très gracieuse en fait dans le film, même si c'est un gros baraqué. Donc le quatrième morceau s'appelle Commitment. Je crois que c'est le dernier morceau sur l'album. En tout cas, c'est aussi très très beau et ça vous donne juste un petit aperçu des merveilles qui se logent dans ce disque. Donc n'hésitez pas à explorer plus avant.
Commitment, Jupiter Ascending. très discret, ça fait musique de chambre un peu.
Giacchino, quand on le laisse faire, il y va, quoi. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il a aucune retenue au-delà de ce qui est nécessaire, de ce qui est attendu par le film. Mais à partir du moment où le film ne le retient pas, ne le restreint pas, il y va à fond tout le temps, en fait.
J'imagine qu'il ne faut pas espérer une director's cut un jour ou l'autre.
Je pense qu'il n'y a pas les éléments pour faire un director's cut. Pour le peu que j'en sais, le film n'a pas été massacré au montage dans le dos des vachos. Hein. Ils ont fini le film un peu sur les rotules, en mode, bon ben, on se casse, quoi. on quitte cette ville pourrie. Mais le film a quand même été terminé. Et il se trouve que, effectivement, le montage séquentiel, il est ce qu'il est. Ça ne peut pas faire de miracle. Et je pense qu'il y aura toujours un problème au niveau du public à suivre ce récit dans sa continuité parce que trop compliqué et trop accidenté d'une scène à l'autre. C'est pas le Rollerball de McTiernan, quoi. C'est pas un film qui est refait complètement dans le dos des auteurs.
Non, et d'ailleurs, même s'il y avait de la matière pour faire un director's cut, il faudrait refaire énormément, je pense, d'effets spéciaux. Ça coûterait trop cher. Le budget du film était de combien ?
Le budget du film était annoncé d'abord à 170. Et en fait, après, ça a été dans les 210, et puis bon, en réalité on est bien dans les 250 quoi. 250 millions, pardon, j'ai pas précisé.
Oui, pas 250 dollars, sinon moi j'en fais un film. Tout ça n'incite pas tellement à l'optimisme, mais heureusement, il y a encore des cinéastes qui sont optimistes.
Il y a encore des gens qui essaient de faire des choses fraîches, nouvelles, y compris lorsque c'est basé sur des semi-franchises, puisque là, il s'agit de Disney, et Disney donc était déterminé à utiliser ses attractions foraines pour en faire des films. Ça avait été le cas de Pirates des Caraïbes, qui avait été le carton que l'on sait.
Ça a aussi été le cas de La Maison Hantée.
Exactement. Et donc, ben là, en l'occurrence, il s'agit de Tomorrowland.
Et qui n'est pas une attraction, mais juste une zone.
C'est ça.
C'est ça, c'est une zone d'un futur vu de manière très optimiste dans les années 50, en gros.
C'est Damon Lindelof, en fait, qui a d'abord bossé sur le projet avec cette idée, donc, de construire quelque chose autour de, non pas du futur, mais de la vision du futur qu'avait Disney. Puisque Tomorrowland était un projet chéri par le Walt Disney, le fondateur, et c'était sa vision du futur à lui qui était mise en scène. Damon Lindelof, dans la série Lost, avait déjà fait comprendre, pour ceux qui étaient un peu attentifs, qu'il avait un goût assez marqué pour une écrivaine américaine hyper connue aux États-Unis mais totalement inconnue chez nous, qui est Ayn Rand, qui a écrit deux livres qui sont La Source Vive et La Révolte d'Atlas. La Révolte d'Atlas est, je crois, une des plus grosses ventes de romans de fiction aux États-Unis, avec 10 millions d'exemplaires vendus, un truc comme ça. C'est monstrueux, quoi.
Ça a d'ailleurs été adapté en film il n'y a pas très longtemps, il y a une petite dizaine d'années, mais c'est même pas sorti en France.
Un film bien pourri, et effectivement, c'est pas sorti en France. Et à travers ces fictions, en fait, elle établissait ce qu'elle appelait une philosophie qui s'appelle l'objectivisme. Je vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est un peu compliqué, mais c'est un truc qui nous est complètement étranger à nous, Européens, en fait. C'est une sorte de libertarianisme strict qui refuse toute idée de collectivisation. Donc c'est anticommuniste, antifasciste, anti-religieux, anti-beaucoup de choses, on va dire. Un peu aristocratique, puisqu'il y a quand même cette idée que des gens qui ont plus de valeur que d'autres, quoi. Toujours est-il que Damon Lindelof établit les bases du récit, et c'est Brad Bird qui va s'intéresser au projet. Alors, on a évoqué la question de Bob Iger qui a repris les rênes de Disney et qui va aller justement vers la marvelisation de Disney avec le rachat de Lucasfilm et compagnie. C'est une certaine façon d'utiliser l'imaginaire, quoi. C'est-à-dire on utilise les créations populaires pour en faire des franchises qu'on va éponger jusqu'au bout. Ils avaient beau promettre à l'époque qu'il n'y aurait pas de Nuggets Star Wars. On en a eu, en veux-tu, en voilà. Et Brad Bird, ben, il n'est pas tellement partisan de ce truc-là. Et je pense qu'il y a eu un acte très très important qui va avoir beaucoup de conséquences, c'est que Brad Bird a refusé de faire le Star Wars épisode 7 qui lui était proposé. Ça en dit beaucoup sur ce que lui voulait faire de sa carrière et de la façon avec laquelle il envisage Disney.
Mais il a pas seulement refusé parce que c'était Star Wars produit par Disney, il a refusé parce qu'il voulait faire Tomorrowland et que c'était important pour lui.
C'est ça. Et le sujet du film explicite aussi ce choix. On va essayer de le résumer efficacement.
Tomorrowland, un film qui raconte l'histoire d'une adolescente dont le père travaillait à la NASA, je me souviens plus. Elle a cette même passion pour l'espace, les étoiles, le futur, l'avenir. Passion qui va se retrouver d'un seul coup concrétisée par l'apparition soudaine d'un pins. Un pins que, quand elle le touche, hop, elle se retrouve transportée instantanément dans un endroit merveilleux et futuristique. Tout ça est très mystérieux, très étrange. Et que va-t-il se passer? Je vais éviter de vous spoiler le film. Il s'y passe plein de choses. Il y a un casting absolument excellent. Et là, j'y tiens parce que George Clooney est très très bon dans son rôle, comme d'habitude. Britt Robertson je la trouve vachement bien. Et il y a Hugh Laurie aussi qui fait un rôle secondaire, mais néanmoins très important dans l'histoire. Bref, voilà un film qui est bourré de surprises, et surtout ce qui est intéressant et plutôt rare au niveau du cinéma américain, c'est qu'on n'imagine pas où l'histoire va entraîner son personnage. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, parce que la plupart des films, des gros blockbusters, au bout de 5 minutes, on sait ce qui va arriver au personnage. Alors que là, je dois dire que Tomorrowland, c'est suffisamment intrigant et mystérieux pour ne pas arriver à savoir ce qui va se passer dans les 20 minutes suivantes.
Il y a un élément très important par rapport à ce personnage de Casey Newton, donc l'héroïne du film. Tu n'as pas employé le terme, David, je remarque. C'est qu'elle est optimiste. C'est une jeune fille très volontaire et très optimiste dans un monde qui a abandonné, on va dire. Il y a notamment cette séquence à l'école qui est assez hilarante, où en gros elle passe d'un cours à l'autre et chaque cours on explique que c'est la fin du monde et qu'on va tous crever. Et elle passe son temps à lever le doigt parce qu'elle a une question à poser, et lorsqu'on finit par lui demander la question, elle dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Personne s'était posé la question de « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et en fait, ce qui va lui valoir au départ ses problèmes, c'est qu'elle sabote un chantier qui s'apprête à démolir la rampe de lancement où travaillait son père. Et c'est ça qui l'amène au commissariat où elle va effectivement trouver ce pinzé. Donc je dis c'est important parce qu'en fait c'est son optimisme et sa volonté qui font qu'elle va être repérée par des gens, on sait pas lesquels, et qui va lui valoir de se retrouver avec ce pinzé entre les mains grâce auquel elle voit un monde qu'elle ne connaissait pas, qui est le monde dont une nana comme ça peut rêver a priori, puisque c'est un monde entièrement dévoué à la création, l'exploration, la recherche scientifique. Tout cet aspect là, c'est pour ça que je parlais de l'objectivisme, hein, c'est que la vision qu'on a de Tomorrowland au début du film, c'est un peu la vision idéalisé de la société à la Ayn Rand, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si les gens compétents et volontaires partaient faire leur monde de leur côté.
Et uniquement les gens
et
compétents.
Uniquement, c'est ça, c'est pour ça que je parle de système aristocratique.
Il y a aussi le côté sense of wonder du cinéma américain de science-fiction qui avait un peu disparu depuis les visions dystopiques de Terminator ou même de Matrix. C'est ce que Brad Bird essaye de réhabiliter dans tout le début du film et dans les visions du futur qu'on a au travers du Pins. C'est justement ce côté SF merveilleuse des années 50 qui voyait les années 2000 comme la libération totale de l'humanité face à l'oppression du travail quotidien, de tout ce qui est matérialiste, grâce à la technologie, quoi.
Et c'est ce qui rend ce film, je trouve, totalement particulier en termes de franchise, puisque Pirates des Caraïbes consistait en gros à essayer de faire un film en utilisant les éléments d'une attraction de façon plus ou moins aléatoire. Donc bon, on a des pirates, on a des zombies, on va essayer de mélanger le truc. Là où Tomorrowland, en fait, adapte l'esprit du lieu, mais pas du tout un récit préexistant. C'est-à-dire l'esprit de Tomorrowland, c'était un esprit effectivement optimiste, et d'ailleurs la scène d'ouverture du film nous montre une Amérique qui a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, où on croit à l'avenir, on croit à la création, on croit à l'engagement, et le personnage qui sera plus tard révélé comme étant George Clooney, en fait, c'est un jeune gamin
jeune inventeur,
qui a des étoiles dans les yeux, quoi.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que il part du futur idéalisé vu par Walt Disney dans les années 50, mais que la construction du film, elle s'est faite justement parce que cette idéalisation a rapidement disparu, a été remplacée par une désillusion terrible.
C'est ça.
Au fil des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui a donné l'idée à Brad Bird de faire son film.
Tout le film est donc basé sur cette idée qu'en fait on est en train de construire notre avenir et que cette désillusion nous mène en gros au bord du gouffre, quoi.
Voilà, et d'ailleurs Clooney personnifie cette désillusion totale, puisqu'il a complètement lâché l'affaire.
Donc c'est un film qui, je trouve, met en action sa propre thématique, parce que si la thématique du film, c'est ça vaut le coup de se sortir les doigts du cul, de bouger, d'avancer, de chercher, etc. Et c'est un film qui, du coup, se bouge pour ne pas rester statique, quoi, pour essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouvelles... Et surtout en brûlant tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et il y a pour moi une scène qui est super importante dans le film, sur un plan thématique. C'est une séquence où l'héroïne doit se rendre dans une boutique qui s'appelle Blast from the Past.
Je savais que t'allais dire ça.
Attends, mais cette scène, elle est cruciale, elle est absolument cruciale.
D'ailleurs, elle raccroche les wagons avec toute la famille Pixar. John Lasseter, fondateur et président de Pixar pendant des années, est un immense fan de jouets, un gros collectionneur de jouets, un geek. Et là, je pense que cette visite dans la boutique, Brad Bird revendique son étiquette de geek absolu et de fan de jouets, hein, ça me paraît évident.
La boutique, pour que vous fassiez une idée, si vous n'avez pas vu le film, c'est Forbidden Planet, ou Album en France.
Donc à l'intérieur, il y a en gros tout ce qui a constitué l'imaginaire de gens comme Brad Bird et John Lasseter. Donc on a des King Kong, on a des machins comme ça. Il y a y compris le géant de fer et des créations de Brad Bird qui sont les Simpsons et tout ça. Et c'est tenu par deux geeks vieillissants, quoi, qui vont être littéralement piégés dans une bombe temporelle, c'est-à-dire une bombe qui arrête le temps et qui paralyse. bêtise, en fait. Et t'es là, tu fais, ok, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, le mec? Si on continue à se branler, en gros, sur ce passé culturel, on va pas avancer. On va pas avancer. On va être bloqué là-dedans, et littéralement mort, paralysé, quoi. Et tout le film, c'est ça. Tout le film, c'est une invitation à aller de l'avant. Et c'est pour ça que je trouve qu'effectivement, Britt Robertson, elle est absolument géniale. C'est pour, personnellement, hein, c'est mon héroïne préférée du 21e siècle. J'ai jamais vu une héroïne aussi charismatique.
Et, je sais pas où il l'a trouvée, mais elle est extraordinaire.
Ouais. Mais c'est surtout qu'il l'a dirigée dans le bon sens, quoi. Je me disais, comme Brad Bird, c'est un animateur, à l'origine, je suis sûr que dans sa tête, il voyait un renard. J'ai l'impression de voir un renard pendant tout le film, en fait. Elle est tout le temps à l'affût, tout le temps en train de chercher un truc, comment sortir d'une situation et tout. Et c'est...
Oui, et même quand elle est en arrière-plan, elle est quand même dirigée, alors que le focus est sur d'autres personnages. Et elle a des expressions, des sourires, des choses qui font que c'est pas un hasard, en fait.
C'est ça. Inutile de dire que, voilà, si vous avez apprécié Les Indestructibles, Ratatouille et Mission Impossible Protocole Fantôme, bah, c'est bel et bien le même réalisateur, quoi. Il y a des moments complètement dingues.
On va déjà écouter un extrait, parce que la musique, évidemment, elle est de Michael Giacchino. Que Giacchino, il est très à l'aise avec Brad Bird, parce qu'ils ont quand même fait déjà plusieurs projets ensemble. Encore une fois, c'est une période de très haute productivité créative chez Giacchino. Et là, il va revenir avec un score extrêmement enthousiaste, extrêmement émotionnel, qui est vraiment la personnification musicale du personnage de Britt.
Britt Robertson, oui.
Et on va écouter un premier morceau, donc, qui est en gros le thème de la science et de la découverte scientifique, qui va être utilisé beaucoup dans le film, en fait, et qui a son propre thème, qui... pour certains qui connaissent bien la musique d'Indiana Jones, peut-être vous allez retrouver une certaine parenté avec le thème du Graal de Indiana Jones 3. Je pense que c'est un total hasard, mais il y a effectivement une petite parenté entre les deux. Et c'est un très très beau thème. Il s'appelle
Edge of Tomorrowland. We'll be right back.
On peut dire que dans ce film, dans Tomorrowland, il se passe plein de choses, c'est très varié. Et moi, j'adore, dès qu'il y a le thème du futur, le thème de la découverte du futur, donc il y a toute cette scène où elle découvre Tomorrowland, il n'y a pas d'autre mot, qui possède une musique absolument incroyable que j'ai dû écouter à peu près 2500 fois en boucle dans mon Walkman à l'époque.
T'avais un Walkman en 2015 ?
Ouais, numérique.
Ah oui.
Bah oui, quand même.
Un téléphone, quoi.
Ouais, par exemple. Bref, tout ça pour dire que cette musique-là, c'est vraiment une musique comme on peut l'adorer dans les musiques de films de science-fiction.
Bien évidemment, le thème dont tu parles, le thème de la découverte de Tomorrowland, on va l'écouter tout à l'heure. Hein. On l'a pas laissé de côté, mais...
Oui.
Dans le récit du film, arrive en fait un moment où le spectateur commence à réaliser le caractère assez fantastique du truc. C'est très très bien amené, puisqu'on avait dans la scène d'ouverture qui se passait dans les années 50, le jeune gamin qui deviendra plus tard George Clooney, qui suivait en fait une petite fille de son âge, qu'il avait menée à l'intérieur d'une attraction, où il avait fini par découvrir Tomorrowland. Et en fait, notre héroïne Kazé va réaliser que la personne qui l'observe, c'est cette fille des années 50 qui n'a pas changé d'âge en fait, qui est jouée par une gamine qui s'appelait Rafe Cassidy, et pareil, elle est surnaturelle.
Elle est surnaturelle, elle a pas vieilli tout simplement parce qu'elle n'est pas humaine, c'est un robot, mais un robot extrêmement élaboré, extrêmement intelligent et doué même d'émotions en fait.
Et on le découvre, ses caractéristiques robotiques au détour d'une séquence d'action assez croquignolette où elle se met à courir à toute berzingue en mode Super Jamie, l'homme qui valait 3 milliards. J'adore cette séquence. Bref, et donc comme elle est, c'est un robot très sage et très ancien, avec l'héroïne, elle va développer un rapport mère-fille inversé, c'est-à-dire c'est la gamine, puisqu'elle a un corps de gamine de 7 ans. Quoi.
Elle a l'air beaucoup plus jeune que Kazé, effectivement.
Oui, mais c'est elle qui donne les ordres et c'est elle qui l'engueule. Et elles se retrouvent toutes les deux, en gros, dans l'aventure sur les routes, à s'engueuler comme une mère engueulerait sa fille, quoi. Mais sauf que c'est une gamine de 7 ans qui gueule sur une adolescente et ça donne un ressort comique incroyable pour aller retrouver donc le personnage de Clooney, quoi, qui s'est un peu retiré du monde.
C'est un film étrange parce que c'est un film qui va très vite et en même temps prend le temps. Là où il faut. Il y a des pauses, il y a de la contemplation, il y a tout ça. Et en même temps, il se passe sans arrêt des choses. Et comme disait David tout à l'heure, on sait jamais ce qui va se passer dans la scène suivante. On est complètement à la merci du créateur du film. C'est devenu tellement rare que c'est vraiment très très appréciable. Encore plus aujourd'hui, même qu'à l'époque de la sortie du film.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Même si je l'ai vu moi plusieurs fois, voire trois fois au cinéma, donc je le connais bien le film. Malgré tout, je reste quand même surpris par moments. Et donc on a cette arrivée chez George Clooney, qui vit reclus dans une vieille maison toute pourrie,
qui d'ailleurs
qui ne veut parler à personne.
Système de protection qui fait que lorsqu'elle frappe la première fois à la porte, elle est éjectée à 50 mètres.
Par une espèce de champ de force.
Ben c'est ça. Et dans un plan qui est vraiment un plan cartoonesque, hein, puisqu'elle tombe littéralement cul par-dessus tête. Enfin, vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible. La cascadeuse, elle s'est démantibulée un truc. Et cette idée de cartoon, elle va vraiment être présente par la suite, parce que donc, la maison en question de Clooney va être envahie par des agents, des hommes en noir, qui en réalité sont aussi des robots.
Oui, l'avantage des robots, c'est qu'on peut les découper, les désinguer, sans que ça choque qui que ce soit.
Voilà. Dans cette attaque de maison et avec tous les pièges que Clooney a installés à droite à gauche et le fait qu'il ait des inventions bizarres dont on ne sait pas à quoi ça sert, mais on découvre à quoi ça sert justement dans la façon avec laquelle il se débarrasse de ses robots, on a vraiment une scène à nouveau hyper cartoonesque avec carrément des gags de cartoon. Enfin, je sais qu'il y a cette scène où t'as un robot, il lui met dessus une espèce de trou qui en fait le fait disparaître dans une autre dimension. Du coup,
c'est ça déborde d'idées en fait.
Ah ben ça, c'est la méthode Brad Bird.
C'est un truc de malade mental, le nombre d'idées qu'il y a dans la séquence. Moi, je me la refais régulièrement parce que c'est bluffant, quoi.
C'est la formule que Brad Bird avait déjà utilisée, hein, sur Les Indestructibles, hein, qui est il faut tout utiliser sur le bison. Cette idée que si tu décides de faire une séquence comment se débarrasser de robots envahissants dans une maison remplie de pièges et de chausse-trappe, il faut épuiser toutes les idées possibles imaginables.
Jusqu'à la vieille baignoire toute moisie, toute tachée, qui en fait sert de fusée façon sentinelle de l'air et qui expulsait de la maison. C'est vraiment complètement dingue cette séquence. Et d'ailleurs, je propose qu'on écoute aussi la musique, puisqu'il y a aussi de l'action dans Tomorrowland. Cette musique qui est extrêmement énergique, qui reprend d'ailleurs des éléments du thème de la science qu'on a écouté avant, mais de manière fractionnée, justement parce que les robots, ils sont aussi pas mal fractionnés dans le film. Le morceau est très très énervé. Ça s'appelle All House Assault.
C'est parti.
Thank you.
voulais juste ajouter un petit détail amusant, c'est que les deux personnages dans la scène de la boutique ont pour nom Ursula Gernsback et Hugo Gernsback, qui sont deux des grands fondateurs des communautés de science-fiction de l'âge d'or. Un petit clin d'œil des scénaristes et de Brad Bird aux grands anciens de la SF américaine.
Alors, en parlant de clin d'œil, il y a aussi un clin d'œil qui nous concerne particulièrement, puisque quand on voit le petit gamin qui va devenir George Clooney plus tard, contacté par la jeune fille dont on saura plus tard que c'est un robot, elle lui donne un pins, le même que celui que Casey a reçu dans le futur, qui va lui permettre, en les suivant, de rentrer dans Tomorrowland par une entrée secrète qui est dans le parc Disney, qui est It's a Small World, l'attraction insupportable avec les poupées de tous les pays. Là. Pour moi, c'est mon pur cauchemar, hein, j'avoue. Et donc, il est refoulé, il va passer par le côté, il est refoulé à l'entrée par un mec de la sécurité qui est joué par Michael Giacchino.
Je pensais que cela allait nous révéler que Giacchino jouait le robot qui l'empêche de rentrer dans la cité par la suite.
Non, par contre, il y a effectivement à la fin du film un robot géant. Il y en a dans quasiment tous les films de Brad Bird, parce que même s'il n'y a pas matière, genre Mission Impossible, il y a quand même le truc robotique avec les voitures là, qui est quand même assez proche de cet esprit-là. Quoi.
Tout à fait.
Le film se termine quand même sur un très beau message d'optimisme, on ne va pas spoiler, mais ce message d'optimisme permet aussi à Giacchino de créer une musique incroyable sur la fin. Moi, j'ai les poils à chaque fois que j'écoute ce morceau final.
Ah, mais Giacchino est très très inspiré par l'univers de Brad Bird. Hein. Je pense que c'est désormais très apparent et c'est d'autant plus regrettable que Brad Bird n'ait plus fait de film live depuis que c'est son dernier. Quoi. Mmh. Après, il y a eu les Incredibles 2 et c'est tout.
Ouais. L'époque n'est plus propice à ce genre de talent là, il faut croire. Le fait est que voilà, c'est vraiment, on l'a dit, un film qui voit de l'avant, qui se réfère également à une vision du futur qui a été perdue entre temps. C'est important de noter aussi que Brad Bird, Lasseter, tous les autres, ils ont eu comme professeur à la California Institute of the Arts ce qu'on appelait les Nine Old Men, c'est-à-dire les animateurs originaux des premiers Disney, qui leur ont vraiment servi de parrain et de guide, et que donc pour eux, Disney c'est ça, ça devrait être ça, ça devrait être ce regard vers l'avenir, vers l'ambition, vers le travail bien fait, et ils sont complètement en porte-à-faux avec ce qui se passe à l'époque au studio Disney. Une des sociétés de production, c'est A113 Productions, qui est le nom de la classe qu'occupaient Lasseter, Brad Bird, Tim Burton et tous les autres.
Oui, on vous en parlait dans les épisodes d'animation, voilà. Parce que ça apparaît dans chaque Pixar. Il y a une mention de A113 quelque part dans le film.
Et un tel film avec ce genre de message-là, ben, ça passe pas très bien auprès de la nouvelle administration Disney, parce que c'est le film est en train de leur dire, vous faites de la merde.
Ah non, mais c'est du terrorisme, en fait, de la part de Brad Bird. Il est pas du tout en phase avec le message de la communauté dans laquelle il s'est inséré, en fait.
Le mec leur a dit fuck par rapport à Star Wars pour aller faire un film qui est en gros et à peu de choses près, et ben, ce que fait Disney actuellement, c'est l'antithèse de ce que devrait être Disney, quoi. Donc ça passe mal. Il faut pas s'étonner si le film, pareil, au même titre que John Carter, va être mis à la poubelle, quoi. C'est-à-dire que pareil, la sortie de Tomorrowland, ça a été une catastrophe en termes de marketing et tout, c'était n'importe quoi.
Il méritait pas ça, et en plus, il s'était attaché les bons talents. Enfin, je veux dire, Clooney était à fond dans le film. Quand le studio te lâche, qu'est-ce que tu peux faire?
C'est aberrant. La gamine qui joue le robot, Rafe Cassidy, elle aurait largement eu l'Oscar, quoi, si le film avait été vraiment pris en compte, s'il avait été soutenu. Elle est parfaitement hallucinante. Des enfants acteurs de ce calibre-là, on en a une fois tous les 20 ans, quoi.
C'est ça, c'est du niveau de Christian Bale dans Pierre du Soleil, en fait.
Oui, c'est ça.
Dans un personnage très différent, mais il était aussi assez venu, quand même.
Donc, film ultra ambitieux, qui se voudrait optimiste, qui se voudrait proposer quelque chose de nouveau, et qui se retrouve à une époque où, bah, en gros, c'est un peu le mouvement inverse qui a été privilégié, celui du repli.
Celui de la bombe qui file le temps.
C'est ça. Et donc, cette production à près de 200 millions de dollars va à peine faire 200 millions au box-office, ce qui n'est pas du tout suffisant pour rembourser tous les frais engagés.
C'est ça. C'est ça. Après, il nous reste un super beau film avec un très beau message, qui est quelque part aussi un film un peu romantique dans l'esprit, en fait, qui est un truc qui n'est pas du tout à la mode non plus en 2015 ni aujourd'hui, d'ailleurs. Et il nous reste aussi une très très belle musique. Alors, ne cherchez pas le CD, parce qu'il a été édité par Intrada en 2015, je pense, mais il a été très vite épuisé et il n'y en a pas eu depuis. Mais vous pouvez l'écouter, je pense, sur les différentes plateformes. Et ça vaut largement le coup. Voilà, c'est encore un des grands scores de Giacchino. Il y en aura encore à venir, mais disons que je le développerai dans l'épisode suivant, mais son inspiration va prendre un tour différent à cause des projets sur lesquels il est embauché, en fait. On y reviendra.
Est-ce que le pauvre Giacchino, c'est pas un peu un chat noir pour tous les projets super ambitieux? À chaque fois, c'est des énormes productions qui se plantent magistralement.
Ce serait peut-être l'inverse, en fait. C'est-à-dire que comment se fait-il que sa carrière magnifique n'ait pas été entachée par ses films qui ont été d'énormes échecs? Lui, s'en est plutôt bien tiré. Mais le fait est que, j'imagine qu'il est inspiré et attiré par la créativité et l'originalité durant la décennie décennie qui vient de s'écouler, bah, c'était persona non grata à Hollywood.
Ça a dû le décevoir quand même profondément, le pauvre vieux.
Mais d'autant plus que Giacchino, lui, ne se dédie pas. Il tient à ses films. Il est fier d'avoir fait John Carter. Il est fier d'avoir fait Jupiter. Il est fier d'avoir fait Tomorrowland. Et il ne lâche pas ça. Il le redit en interview régulièrement. Il comprend pas. Il pense que les gens sont passés à côté du film. Il les a fait parce qu'il y croyait à l'époque et il y croit toujours aujourd'hui. Moi, je trouve ça bien, quoi. Il n'y a pas la langue de bois qu'on a habituellement à Hollywood où, en gros, un film qui fait pas les entrées qu'on attendait, c'est un film qui, au mieux, n'existe pas, au pire, est une merde. Ben non, il n'est pas d'accord avec ça. Et Speed Racer, c'est pareil, il le défend encore aujourd'hui, 15 ans après la sortie du film. Donc moi, je dis bravo Giacchino. Mais à côté de ça, il a enchaîné des gros cartons aussi. Il y a les Missions Impossibles, il y a des choses comme ça. Donc il alterne quand même un petit peu entre des choses qui marchent pas et des choses qui ramassent énormément d'argent. Incredibles 2, juste après, là, en 2019, ça a été un gros carton aussi. Donc il n'est pas à plaindre. C'est d'ailleurs ça, je pense, qu'il sauve et qui lui permet de continuer à travailler sur des films de très haut profil, comme ce genre de choses-là, comme les Marvel, comme tout ça.
On va s'arrêter sur cette magnifique musique pour cet épisode. On n'aura fait que 3 films, c'est ça ? Un truc dans le genre ?
4, dont 2 dont on n'a pas parlé.
Excusez du peu, mais sur l'année 2015, le mec, il a composé Jupiter Ascending, il a composé Tomorrowland, il a composé Jurassic World, dont on parlera dans l'épisode suivant, et il a composé la musique de Inside Out. Donc déjà, il y a 3 films que nous, personnellement, on trouve admirables, et un film qui a véritablement cartonné au box-office.
Très bien. Moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, cher Rafik, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment même, à l'instant où je te parle, là, dans la minute, dans la seconde, sur la meilleure radio de musique de film du monde, voire de la galaxie, peut-être même de l'univers, on parle évidemment de...
Lagrandeévasion.fr. Je suis sûr que tu veux parler de cette radio.
Exactement, on parle de Lagrandeévasion.fr.
Qui est la meilleure radio de musique de film au monde. Donc sur Lagrandeévasion.fr, au moment où nous vous enregistrons, passe un morceau du film Cliffhanger, musique composée par Trevor Jones, tout à fait. Et c'est d'ailleurs le end credits, assez long.
Et assez bon d'ailleurs, parce que la musique de Trevor Jones est très bien, même si le film est très contestable.
Avec une très belle illustration, je sens déjà qu'Olivier a dû passer 4h30 dessus. Donc merci à Olivier de permettre à Trevor Jones d'exister encore à nos oreilles.
C'est pas les plus belles illustrations qui prennent le plus de temps. Parfois, c'est les plus moches pour qu'elles soient moins moches.
Moins moches, ouais.
Bon, bah très bien. Trevor Jones, ça me convient. On va inciter nos auditeurs aussi à aller soutenir cette magnifique radio, lagrandeévasion.fr, car, cher professeur Desbrosses, il y a un Tipeee à disposition.
Il y a tout à fait un Tipeee à disposition qui est là pour nous permettre de récolter quelques deniers pour les frais de fonctionnement, déjà, qui sont quand même assez élevés, mais surtout pour développer aussi des nouvelles fonctionnalités, une appli, etc., que j'espère bien faire un jour. En tout cas, on n'en a pas fini ni avec La Grande Évasion, ni avec Total Tracks. On est à fond, j'ai l'impression que vous aussi, donc il n'y a aucune raison qu'on arrête.
Oui, d'autant plus qu'on est sous la protection des êtres de lumière, qui ont donné d'ailleurs apparemment un répit à l'humanité, donc ils ne vont pas encore tout de suite récolter les âmes dans une grande récolte. Merci aux êtres de lumière, et on vous retrouve
la semaine prochaine. Mais on a plein de sujets sympas qui sont en train de se préparer là. Vous avez eu des petits teasers pour certains, mais il y en a d'autres qui vont bien vous surprendre aussi. On va continuer à explorer la musique au cinéma. Il y a quand même des choses pas mal à faire autour de ça. C'est plutôt un bon sujet. Je pense qu'on va rester dans la thématique dans les 10-15 prochaines années.
Et on va donc terminer avec le end credit de Tomorrowland, qui est un morceau extrêmement complet et extrêmement jouissif aussi. Ouais.
Voilà, et qui récapitule en gros toute la thématique principale développée dans le film de manière toujours très élégante, comme le fait Giacchino à chaque film.
Tout à fait.
Et si vous cherchez le film sur la plateforme Disney, je ne sais pas s'il est sous le titre Tomorrowland, mais en tout cas, vous le trouverez sous le titre français À la poursuite de demain. Allez, on s'écoute le générique final.
On vous embrasse et on vous dit à bientôt.
Salut tout le monde.
Des bisous.